Utopode 010, 5 août 2007, 8 harmoniques de lumière de Joël Champetier, seconde partie. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode d'Utopode, un podcast en français qui vous propose des lectures de nouvelles de SF, de fantastique et de fantasy. Aujourd'hui, seconde et dernière partie du récit 8 harmoniques de lumière de Joël Champetier, lu par Marc Tiefenauer. Pour en savoir plus sur l'auteur et le lecteur, rendez-vous sur notre site www.utopod.com. Et maintenant, allongez-vous dans votre sofa antigrave, reprenez là où vous vous étiez arrêté et place à la littérature.
8 harmoniques de lumière de Joël Champetier. Deuxième partie. 4096. Et tout est en toi, science. Une est indivise. Une tâche considérable attendait les premiers éveillés pendant leur séjour en orbite autour de lumière. Il fallait repérer sur la surface un lieu propice à l'établissement d'une colonie et y amener tous les membres de l'équipage pour qu'ils puissent accoucher dans la sérénité. Gabriel et ses frères connaissaient presque tout ce que les sondes automatiques envoyées vers lumière avaient transmis à la Terre des siècles plus tôt. Ils auraient tous pu tracer de mémoire la forme des continents et décliner la nature et la concentration des constituants de son atmosphère. Mais cette science souffrait du manque de détails. Pendant que les savants scrutaient la surface vierge de lumière, les ingénieurs inspectèrent la navette de transbordement, ô combien précieuse maintenant qu'elle était unique. Il ne suffisait plus, on s'en doute, de la remettre dans son état d'origine, de corriger les outrages du temps et de la vilenie de l'homme primitif, mais bien, chaque fois que la chose était possible, d'étendre la fiabilité du véhicule duquel ils dépendraient tous désormais. Gabriel, assisté du fidèle Cléry, supervisait le travail de ses compagnons avec un mélange de sévérité et de touchante sollicitude. Certes, il surveillait la progression des travaux. Aucune raison ne put jamais l'engager à se dispenser de cette tâche. Mais il veillait tout autant à supporter moralement ses frères et à éclairer leurs raisons. Car le décompte des malheurs qui affligèrent nos ancêtres n'est pas terminé, hélas. L'entropie, impossible à rassasier, s'empara aussi de Marl, lui si bon, si aimable et si empressé auprès de ses frères. Un jour il apparut, les traits pâles et altérés, incapable de conserver dans son organisme la moindre nourriture. Le lendemain il était mort, foudroyé par une dégénérescence inconnue, sans doute attribuable à un mauvais fonctionnement de son alvéole. Un autre éveillé connut un sort autrement plus douloureux. Nous ne pourrions compléter ce récit sans évoquer la figure tragique de l'enquestre, qui perdit ses fœtus et ne fut plus capable d'enfanter. Imaginez pareille existence, entourée à son aurore de tous les délices et promesses de la conception, et abreuvée ensuite de douleur et d'amertume. Émouvant l'enquestre. Vivre sans jamais connaître l'extase de la parturition. Puisse cette simple évocation vous inspirer, cher purgateur, une horreur salutaire et un refus de succomber à quelque mièvre sentiment de nostalgie pour l'homme primitif, né de la fange terrestre, qui refuse à la moitié de son espèce le bonheur de donner la vie. Nous, qui tremblons au souvenir de ces événements, concevons aussi comme tout cela était pénible pour ceux qui les vivaient. Heureusement, Gabriel était là, lui qui aurait sacrifié sa vie pour Enguerrand, ne refusa pas le rôle que le destin lui avait délégué. Les mémoires de nos ancêtres regorgent de louanges à son nom. De caractère vif et enjoué en temps normal, il devenait grave, voire sévère, lorsque l'occasion l'exigeait. Les rares fautes de ses frères étaient jugées et punies sans rémission, mais aussi sans humeur et sans injustice, de sorte qu'eux-mêmes reconnaissaient leur tort et ne murmuraient pas contre le châtiment, sachant combien il en coûtait à un frère si tendre de devenir inexorable. Et pendant ce temps, de manière tout aussi inexorable, les fruits de leurs entrailles croissaient en leur sein. Leur ventre s'arrondissait, leurs membres s'alourdissaient. Vint le jour où les éveillés choisirent le lieu sacré où l'humanité prendrait racine. En l'absence de terrain dégagé, le premier atterrissage de la navette ne pouvait s'accomplir que sur l'un des océans. Avec l'approbation de Gabriel, les savants sélectionnèrent une île 6 tout près de la masse continentale du sud, dans l'océan qui porterait plus tard le nom d'Enguerrand, sous une latitude où la température promettait d'être clémente. La merveilleuse île des enfants, vers laquelle mènent tous les pèlerinages. Vint le jour du départ, grandiose entre tous, Gabriel et ses frères embrassèrent les parois protectrices de l'Athanor, sachant qu'ils ne parcourraient plus jamais ces couloirs, entre lesquels s'entremêlaient les souvenirs les plus heureux, comme les plus poignants. Puis, assurés par les ingénieurs que la navette les mènerait à bon port, Les éveillés ordonnèrent à celle-ci de rompre les amarres qui la retenaient encore. La navette glissa dans l'espace. Couronnée d'une auréole de feu, elle pénétra le sein virginal de l'atmosphère de lumière qui la ralentit avec douceur et fermeté. C'est ainsi que le germe de l'humanité imprégna lumière, récit qui s'imbrique en un rapport parfait dans celui qui l'a précédé et dans celui qui va suivre. 32768. C'est dans ta lumière, dans tous tes harmoniques. Le signe de la symétrie profonde du réel, tel que la science l'illumine, veut que tout effet porte en lui son contraire. Cela est vrai des ajustements structuraux de la matière, toute réaction chimique entraînant des effets qui cherchent à la contrecarrer, et cela est tout aussi vérifiable dans les sphères les plus complexes de la nature, y compris les ordres moraux et spirituels. Les défaites portent en elles les conditions des victoires futures, et c'est à l'aune des épreuves que l'on mesure le bonheur. On ne saurait trouver meilleur exemple de cette vérité qu'en se rapportant aux années de suprême félicité que connurent les éveillés sur l'île des enfants. Aussitôt le pied posé sur la berge de l'île, Gabriel assembla ses frères autour de lui. Tous gonflaient leur poitrine de l'air pur et parfumé de la vie. Qui d'entre nous n'a pas ressenti un pincement de nostalgie, n'a pas regretté de ne pouvoir être présent parmi cet auguste aréopage entourant le plus noble d'entre nous? Si l'envie est un péché, il s'agit en ce cas d'un péché bien innocent et pardonnable lorsque l'on admire, sur les anciens documents, la majesté de nos ancêtres et la douceur angélique de leurs traits sur lesquels se peignent une irréductible volonté unie à une extrême sensibilité. Et Gabriel, qui, dans les moments les plus sombres, avait su encourager ses frères par ses exhortations, sut que le moment n'était pas au long discours. « Nous avons du travail, » dit-il simplement. Et certes oui, ils travaillèrent. Ils défrichèrent la rive, là où s'érige maintenant le monument de l'humanité. Ils explorèrent l'île, firent un premier classement des formes de vie que l'on y trouvait, s'assurant avant toute chose de la placidité des bêtes. Ils ensemencèrent la terre. Les ingénieurs assemblèrent les éléments d'une salle commune pour se soulager de l'exiguïté de la navette. Juste à temps, car 16 jours à peine après l'arrivée de l'humanité sur Lumière, l'ingénieur Brandin fut béni par le destin. Ses os se rompirent et toute autre activité s'interrompit chez les éveillés. On voulut allonger Brandin sur une des couches confortables de la navette, mais ce dernier refusa. Il tendit la main vers la salle commune et dit « C'est sur Lumière qu'ils doivent naître. » Aucun des éveillés ne s'opposa à pareille volonté. On transporta Brandin dans la salle commune, et en ce 16e jour, sous un toit encore ouvert aux éléments, naquirent Lumière et Pasteur, les premiers enfants. Comment exprimer par des mots la joie des éveillés alors qu'ils serraient tour à tour dans leurs bras ces enfants si forts, si saints, alors qu'ils embrassaient et félicitaient le plus heureux des pères? Or, cette incommensurable félicité n'était qu'un plateau menant aux cimes du bonheur. Tel un coup de tonnerre annonciateur de la pluie sur une terre trop longtemps asséchée, cette première naissance fut suivie par un torrent de vie nouvelle. En 5 jours, tous accouchèrent, à l'exception douloureuse de l'enquestre, qui démontra encore une fois son altruisme en aidant ses frères et en pleurant de joie du bonheur qui leur échoyait. Pour Gabriel aussi, père d'André et de Cinnamon, tout changea de façon irrémédiable et merveilleuse. Il n'était plus seulement un frère choisi pour guider ses frères, mais aussi un père qui devait soin et dévotion à tous les enfants qui peupleraient Lumière. En conséquence, toute activité non essentielle et urgente fut reportée. Les soins aux enfants primaient tout, l'allaitement à lui seul accaparant plusieurs heures de chaque journée. Qui d'entre vous, jeune purgateur, ne s'est pas ému devant le spectacle attendrissant du père allaitant ses deux fils? Imaginez cette image multipliée par 35, contemplez l'île des enfants en cette aube de l'humanité, écoutez le bruissement de vie qui en émane. Peut-on concevoir autant de bonheur? Et pourtant, les éveillés méritaient plus encore, car la naissance de leurs enfants n'était qu'une étape de leur apprentissage des félicités de la vie. Faut-il le rappeler, ces nouveau-nés n'étaient pas issus de leurs gènes. Contraints par la nécessité essentielle d'élargir la variété génétique de l'humanité, Gabriel et ses frères avaient accueilli en eux 2 fœtus soigneusement sélectionnés et implantés dans leur sein avant leur long sommeil. André, Cinnamon et les autres étaient les enfants de la science, pas de l'amour. Ainsi, parmi tous les bouleversements heureux de leur existence, Gabriel et ses frères commencèrent à ressentir les manifestations des changements organiques provoqués par la libération de leur utérus. leurs organes géniteurs s'éveillèrent, s'affermirent et se gonflèrent de sève et de sensibilité. L'attention qu'ils portaient les uns aux autres se colora soudain d'un sentiment plus pressant que la fraternité. Pour la première fois de leur jeune vie, ils connurent ce passage troublant et merveilleux de l'existence d'un homme qui le fait évoluer d'une nécessité de la vie, la parturition, à une autre tout aussi fondamentale, l'union, le coït. À leurs préoccupations, l'installation dans l'île, la découverte de leur environnement, les soins aux enfants, Gabriel et ses frères savants ajoutèrent celle de la formation des trinités. Maintenant que l'humanité compte ses enfants par centaines de millions, nos affinités personnelles sont un guide aussi bon qu'un autre pour choisir nos partenaires. Pour les éveiller, agir ainsi aurait cependant été une marque d'inconscience, surtout après l'irrémédiable perte de près de la moitié de leurs frères. Ce fut Gabriel qui, après avoir consulté les registres, attribua à chacun de ses frères leur partenaire d'amour. Lui-même porterait les enfants de Majeur et féconderait Cléry, le plus fidèle de ses assistants. Ces froids appariements effectués, les éveillés purent s'abandonner sans détour aux passions naturelles, aux pulsions de la vie qui, de jour en jour, rythmaient de plus en plus leurs agissements. L'île des enfants se métamorphosa pour un temps en île d'amour, univers de mots tendres et de caresses où les corps enlacés offraient les tableaux les plus touchants, où chacun remerciait la science de la plus sainte trinité de plaisirs charnels que l'on puisse connaître. L'enfant qui tète le sein nourricier, la brûlure du sexe qui féconde, le sublime abandon au désir de l'amant. Et même l'enquestre, sévèrement frappé par le destin jusque-là, put participer au banquet où s'exultent les vertus les plus sublimes de la vie. Mes chers purgateurs, ne croyez pas que j'ignore ce que signifie cette étincelle dans vos yeux. À m'entendre ainsi discourir avec autant de lyrisme, brûlant de vous faire partager la passion de nos ancêtres, je perçois le sourire qui n'ose fleurir sur vos lèvres. Souriez donc, enfants que vous êtes encore. Mais dites-vous qu'un jour, sur l'autre rive de l'espace et du sommeil, si la science vous prête vie, vous sentirez à votre tour croître le désir. Vous assisterez à la transformation de vos frères en amants. Alors, vous vous souviendrez de mes paroles. Fruit de ces unions fraternelles, la première génération d'enfants conçus sur Lumière bénit bientôt le sol de l'île. Les premiers-nés, fils de Manuel et de Louis, furent appelés Amour et Vie, symbole vivant de tout ce qui est grand et noble et précieux. Or déjà, il fallait que Gabriel reforme les trinités, car l'appel de la chair se faisait pressant. Et pour la troisième fois, à l'exception de l'infortuné Lancestre, qui ne connaîtrait pour seul bonheur charnel que la fécondation, tous les éveillés offrirent à Lumière la vie. Et ce cycle se poursuit toujours et continuera de le faire. Grande est la science jusqu'à la fin des temps. Au bout de ces 3 ans, chiffre parfait et harmonique de la durée du récit précédent, la population de l'île des enfants était passée de 36 à 246. C'est sur cette illustration de la poussée irrépressible du vivant, auréolée de joie, que se termine ce récit de la vie de Gabriel et des premiers éveillés. 262 144 que l'on distingue en leur véritable nature. Il est impossible, si un cœur d'homme bat dans votre poitrine et non une pierre anguleuse, de ne pas avoir été ému par le récit précédent. Comment ne pas être transporté de joie en évoquant la douce image des 210 enfants babillant et souriant dans leur berceau? Comment s'empêcher de lever les mains vers le ciel et de remercier la science des bonheurs que la vie nous accorde? N'allons toutefois pas imaginer que Gabriel et ses tendres compagnons oublièrent l'attentat contre l'Atanor, la mort de la moitié de l'équipage et le péril qu'eux-mêmes avaient encouru. La jeunesse qui grandissait sous leurs yeux restait toujours la première occupation de leur journée, mais leurs pensées devaient obligatoirement s'élancer au-delà de la sérénité quotidienne. Ils avaient alors eu le temps d'étudier à fond les archives de l'Atanor, et tout ce que nous savons maintenant des circonstances ayant presque conduit à la destruction de la matrice leur était connu. La plupart des éveillés, avec la candeur naturelle qui sied à des esprits aussi bons et aussi droits, eurent les pires difficultés à accepter que les terriens puissent avoir fait preuve d'autant d'audace et de perversité. Il est impossible que les hommes, fussent-ils primitifs, veuillent assassiner leurs propres enfants, affirma entre autres Louis. N'as-tu pas étudié comme nous les archives de l'Atanor ? Demanda Cléry. N'as-tu pas écouté comme nous le message d'avertissement lancé par nos ancêtres ? Nos archives sont peut-être incomplètes, proposa Louis avec un accent de détresse dans la voix, lui qui était le plus tendre des éveillés. Ou nous avons mal interprété ses messages. Il faut qu'il y ait une autre explication. Comment expliques-tu que nous ayons perdu le contact avec toutes les autres matrices? Le problème peut venir de notre matrice à nous. Tes objections sont pareilles à du babil d'enfant, s'assurgea le second éveillé avec une sévérité qui révélait sa propre consternation. Nos frères ingénieurs sont formels, notre matrice n'a jamais cessé de transmettre et de capter. Ce sont les autres qui se sont tus. Il te faut accepter ces faits, Louis, et les regarder en face. Le réel est révélé par la science, pas par nos désirs. Gabriel leva une main apaisante, son regard plein de bonté et d'une lointaine mélancolie embrassant ses frères assemblés. Les paroles de Cléry sont dures. Or, il nous faudra être durs à notre tour lorsque le temps sera venu. Si votre arrivée sur Lumière s'était déroulée comme prévu, nous aurions pu oublier le passé, rassurés dans la certitude que, si nous avions échoué, certains de nos frères lointains auraient assuré la survie de l'humanité et l'expansion de la science. Tout a changé. J'ai beaucoup réfléchi depuis mon réveil dans le sein de l'alvéole. J'ai parcouru en pensée les sentiers les plus solitaires. Lorsque je contemple dans la brise du soir le doux visage de mes enfants, lorsque je sens leur bouche aspirer la vie de mes seins gorgés de lait, je songe à la destruction des sept matrices par l'humanité primitive. Et je crois qu'il est non seulement possible, mais probable, que la Terre sache qu'Enguerrand a réussi à sauver la nôtre. Alors, n'est-il pas tout aussi probable qu'en ce moment même d'autres engins de destruction soient en chemin pour parachever le sinistre forfait? Aucun des éveillés ne dit mot. Étourdis qu'ils étaient par l'ampleur du crime dont ils avaient été victimes, ils étaient encore incapables de concevoir autant d'acharnement de la part de ceux qu'ils considéraient, malgré tout, comme leurs géniteurs. Gabriel continua. Nous avons survécu aux plus obscènes des crimes, une tentative pour enrayer l'expansion de la vie, de la pensée et de la science elle-même. Nous ne pouvons plus nous contenter de survivre et de prospérer sur Lumière. Il est dorénavant nécessaire de tout mettre en œuvre pour nous protéger de futures attaques. Ô Gabriel, ce que tu dis là me trouble profondément, dit Louis après un long moment de silence. Comment pourrions-nous nous défendre? Nous ne connaissons rien de la guerre, et nous ne sommes qu'une poignée. Ce que nos esprits ignorent de la science est inscrit dans nos archives. Quant à notre nombre, Louis, n'est-ce pas le plus faible des arguments? Il y a moins de 5 ans, nous étions 36 à poser le pied sur Lumière. Nous voici 280. Ce nombre est presque exclusivement constitué d'enfants. Mais demain, ce seront des hommes, en âge de procréer et de travailler. Nous serons bientôt des milliers. Nous instruirons alors des soldats et nos ingénieurs leur fabriqueront des armes. Plusieurs éveillés voulurent protester, mais Gabriel fit signe qu'il n'avait pas fini de parler. Je n'exposais, jusqu'à maintenant, que des évidences. L'essentiel n'a toujours pas été dit. Mes très chers frères, assurer notre protection ne suffira pas. Nous sommes devenus, vous et moi, et nos précieux enfants, responsables de la propagation de la science dans tout l'univers, et donc de la pensée, et donc de la vie. Les hommes de la Terre primitive, handicapés par leur incomplétude sexuelle et leur gène alourdi du chaos des origines, nous ont signifié leur refus de participer aux grandes œuvres par la voie la plus obscène et la plus haineuse imaginable. Nous sommes les seuls à pouvoir accepter la coupe qui nous est tendue. Qu'importe son amertume. Il nous faut purger l'humanité de la boue primitive, comme nos gènes ont été purgés de la fange des origines. Lorsque vous plongerez en votre âme, comme je l'ai fait, vous y verrez, tout comme moi, qu'il s'agit de la seule voie qui nous reste. Après ces paroles terribles de Gabriel, les premiers éveillés gardèrent le silence. Ils reprirent leur travail, et de nouvelles générations d'enfants augmentèrent la population de l'île. 8 années passèrent. Les premiers-nés furent bientôt en âge de procréer. Avec toute la tendresse que l'on imagine, les premiers éveillés les initièrent aux joies sublimes de l'amour, sous les rires des plus jeunes qui, tout comme vous, n'aspiraient qu'à vieillir à leur tour pour connaître ces félicités. Et ainsi, à chaque année nouvelle, le nombre des enfants augmenta en une progression géométrique, telle que nous l'enseigne la science. Bientôt, l'île fut incapable de contenir les milliers d'enfants de la colonie. Une seconde ville, Gloire, fut fondée sur le continent. Puis plusieurs autres, tant était vigoureux le tronc sur lequel poussaient maintenant les rameaux de la vie. C'est sur cette évocation des premiers âges de lumière, empreinte de douceur et d'amertume, que se termine ce penultième récit consacré à Gabriel. 2 097 152. Le réel est la matière, la vie est la pensée. Jeune purgateur, c'est à ce moment que vous faites votre entrée, si vous me permettez cette image, dans cette apologie. 32 ans après l'arrivée des premiers éveillés, la population de Lumière dépassait les 100 000 habitants. L'utérus de Gabriel et de ses compagnons de la première heure s'était tari. L'administration courante de Lumière avait été laissée aux mains capables des plus jeunes, ce qui laissait plus de temps aux premiers éveillés à consacrer aux destinées supérieures de la colonie. Or, même s'ils jouissaient de l'adoration de leurs enfants et de la grandeur de ce qu'ils avaient accompli, tous se rappelaient le discours de Gabriel et leurs pensées se chargeaient parfois de sombres nuages. Ils espérèrent longtemps un signe de la part des autres colonies. Ils se seraient satisfaits d'un message de la Terre, une simple explication, un acte de contrition, un témoignage d'amour. Pendant de longues années solitaires en orbite de lumière, l'Atanor tendit ses antennes et scruta les cieux. Mais rien ne vint. Puis la noble matrice se tut, succombant à ses blessures. Les premiers éveillés, maintenant plus sages et plus résolus, s'assemblèrent autour de Gabriel. Ils convinrent tous que le temps des paroles et de la réflexion était révolu. De la même façon qu'eux-mêmes avaient été choisis et formés, ils sélectionnèrent certains de leurs enfants. Ils leur formèrent le cœur, l'esprit et le corps. Ils gravèrent dans leur esprit les principes de la science et exaltèrent les vertus de leur humanité. Ils leur confièrent la plus illustre des tâches, protéger l'humanité en la purifiant de ses racines animales. Ce furent les premiers purgateurs qui virent le jour, il y a de cela plus de 200 ans, les aïeux de la glorieuse compagnie dont vous faites maintenant partie, chers enfants. Votre instruction n'a pas été facile, je le sais, car j'ai parcouru le même sentier épineux que vous. Mais songez que, dans les siècles futurs, votre gloire sera encore plus éblouissante que la mienne. Je vous contemple aujourd'hui, moi qui vous ai instruit, qui vous ai montré l'art d'apprendre et de combattre, qui vous ai fait réfléchir sur le miroir de la vérité, et dont mon cœur battent le bonheur et la mélancolie. Le bonheur de contempler vos visages clairs, vos yeux brillants, et la mélancolie d'être né trop tôt pour vous accompagner. Il y aurait tant de choses à dire, mais le temps presse et je dois conclure. Nos ingénieurs ont mené à bien le plus ambitieux des projets. Une matrice toute neuve, la nouvelle ère, vous attend. Bientôt, vous partagerez le sort des premiers éveillés. Vous vous endormirez dans le sein liquide d'une alvéole pour traverser à votre tour l'espace et le temps. Lorsque vous vous éveillerez, je ne serai plus de ce monde. Au calendrier arbitraire de la Terre, le passage à un quatrième millénaire tracera une éblouissante solution de continuité entre le passé et l'avenir. Vous vous attellerez, avec résolution, à une entreprise terrible et nécessaire, en songeant à Gabriel et à tous les premiers éveillés. Vous penserez à la douceur de lumière et à l'humanité foisonnante qui l'habite. Vous saurez que, pendant votre sommeil, une nouvelle génération de matrices aura été construite par les mains pures de vos descendants, et qu'elles seront déjà en route pour ensemencer l'univers. Vous vous rappellerez surtout, lorsque vous contemplerez des cieux la stérilisation en marche de l'ancien monde, que vous n'êtes au-dessus des autres hommes que pour servir une cause plus grande encore. Et c'est en cela que votre sacrifice sera le plus grand de tous. Je vous dis donc adieu, chers enfants, et vous libère. Vous voir partir est un glorieux martyr, et je conserverai et chérirai le mouchoir qui essuie mes larmes. Gloire au purgateur, gloire à la vie, gloire à la science, gloire à la lumière et à l'humanité nouvelle.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Glorieuse est la science, qui permet à Utopod de diffuser 2 épisodes en l'espace de 4 jours seulement. N'oubliez pas de nous écrire à partir du site www.utopod.com pour nous encourager, pour nous faire des suggestions, pour exprimer vos envies ou toute autre chose qui vous passe par la tête. Le contact avec nos auditeurs est pour nous très important. Vous pouvez aussi laisser une critique de l'un ou l'autre de nos épisodes en cliquant sur la catégorie « Consultez les commentaires ou ajoutez-en un » à la fin de chaque article de présentation. La bise à vous tous et à très bientôt sur Utopod. Bye bye !